10 minutes chronique. Aujourd'hui sur Westrack, dans Viva Culture, c'est la 75e émission de 10 minutes chronique. Qui se souvient de la première du 14 mai 2017 intitulée Los Angeles, une fiction? J'y parlais de la ville mythique, excentrique et folle qui a tant inspiré le cinéma, la littérature, l'art contemporain. Ce 14 mai 2017, j'ai lu des extraits de romans qui avaient pour cadre Los Angeles, et en particulier quelques lignes du livre de Mark Z. Danielewski, « La maison des feuilles ». Une trop courte intrusion dans ce livre qu'on ne peut pas laisser de côté. Aujourd'hui, 10 minutes chronique commence sa saison d'été, et nous avons tout notre temps, en 4 émissions bimensuelles, pour explorer l'un des livres les plus étonnants de ces 20 dernières années. Paru en 2000 aux États-Unis, traduit par Claro et édité en 2002 en France aux éditions de Noël. Inclassable, fait d'un texte qui mêle plusieurs histoires en réseau, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Lecture vertigineuse, récit halluciné. Mark Z. Danielewski a dit qu'il avait voulu appliquer les techniques cinématographiques au roman. Il a fait plus que ça. De découpage en collage de ses notes accumulées pendant une dizaine d'années, il a créé un objet aux ramifications tentaculaires. 700 pages. Voici en extrait ses premières lignes qui nous introduisent dans le labyrinthe. C'est un homme qui parle. Je fais encore des cauchemars. D'ailleurs, j'en fais si souvent que je devrais y être habitué depuis le temps. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne s'habitue vraiment aux cauchemars. À une époque, j'ai essayé tous les médocs imaginables, tout ce qui pouvait m'aider à maîtriser la peur. Excédrine, mélatonine, valium, vicodine, tous les membres de la famille des barbituriques, ou presque. En quantité assez impressionnante, souvent accompagnée de verres de bourbon, de quelques bouffées de bombe qui vous décapent les poumons, et même parfois des vapeurs artificieuses. Et tout cela n'a servi à rien. Je pense pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'existe pas encore de labo assez sophistiqué pour faire la synthèse du genre de produit chimique dont j'ai besoin. Un prix Nobel à celui qui inventera ce truc. Je suis très fatigué. Le sommeil me talonne depuis je ne sais plus combien de temps. Inévitable, je suppose. Ce qui est fâcheux, c'est que la perspective de dormir ne m'emballe pas. Je dis fâcheux parce qu'il fut un temps où j'aimais vraiment dormir. En fait, je dormais tout le temps. C'était avant que mon ami Lud me réveille à 3 heures du matin pour me demander de passer chez lui. Qui sait, si je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone, tout serait peut-être différent aujourd'hui. J'y pense souvent. À vrai dire, Lud m'avait parlé du vieux environ un mois avant cette nuit décisive. Est-ce bien le mot ? Incisive conviendrait mieux, non ? J'étais passé par les affres de la recherche d'appartement suite à un petit problème avec un proprio qui s'était réveillé un matin en se prenant pour Charles de Gaulle. Sa déclaration m'avait totalement abasourdi, que même avant d'y réfléchir à deux fois, je lui avais répondu qu'à mon humble avis, il n'avait absolument rien d'un aéroport, même si la perspective d'un 757 en train d'atterrir sur lui n'avait rien de désagréable. Il m'expulsa séance tenante. J'aurais pu protester, mais l'endroit était une vraie maison de fous, et j'étais content de partir. Une semaine plus tard, le grand Charlie mettait le feu à la baraque. Il déclara à la police qu'un 757 s'était écrasé dessus. Au cours des semaines qui suivirent, alors que je zonnais entre Santa Monica et Silver Lake dans l'attente d'un appartement, Lud me parla du vieux qui habitait dans son immeuble. Il vivait dans un rez-de-chaussée qui donnait sur une grande cour intérieure envahie par la végétation. Apparemment, le type en question avait dit à Lud qu'il allait bientôt mourir. J'y ai pas prêté trop d'importance, même si c'est pas exactement le genre de truc qu'on oublie non plus. Mais sur le moment, j'ai simplement pensé que Lud me faisait marcher. Il aime bien en rajouter. J'ai fini par me dénicher un studio à Hollywood et je me suis retrouvé un train-train abrutissant comme employé dans un salon de tatouage. C'était fin 96. Les nuits étaient froides. Puis le vieux est mort. D'après ce que je sais aujourd'hui, c'était un Américain, même si, comme je devais le découvrir plus tard, les personnes qui travaillaient pour lui percevaient son accent, sans pour autant réussir à savoir d'où il venait. Il se faisait appeler Zampano. C'était le nom qu'il avait inscrit sur son bail et sur plusieurs autres bouts de papier que je trouvais. Je n'ai découvert aucune pièce d'identité, que ce soit un passeport, un permis de conduire ou tout autre document officiel pouvant laisser supposer que oui, il était bien, bel et bien celui qu'il disait être. Bon, allez savoir d'où venait vraiment son nom. Peut-être est-il authentique, peut-être inventé, peut-être était-ce un nom d'emprunt, un nom de plume, ou mon explication préférée, un nom de guerre. Comme me l'expliqua Lude, Zampano vivait dans son immeuble depuis de nombreuses années. Et il avait beau en général fuir la compagnie, il ne manquait pas de faire chaque matin et chaque soir un petit tour dans la cour, un endroit à l'abandon avec des herbes qui montaient jusqu'aux genoux, peuplé à l'époque de plus de 80 chats errants. Apparemment, ces chats aimaient bien le vieux, et même si ce dernier ne leur témoignait aucun encouragement, ils se frottaient en permanence contre ses jambes avant de se carapater ventre à terre à l'autre bout du terrain vague. Bref, Lude avait passé une bonne partie de la nuit avec une femme rencontrée dans un salon de coiffure. Il était un peu plus de 7 heures du matin quand il arriva en titubant dans la cour, et malgré une gueule de bois carabinée, il remarqua immédiatement ce qui clochait. Lude rentrait souvent tôt chez lui et trouvait toujours le vieux en train de faire le tour des hautes herbes ou de se reposer sur un banc délavé par le soleil avant d'entamer une nouvelle ronde. Une mère célibataire qui se levait tous les matins à 6 heures remarqua également l'absence de Zampano. Elle partit à son boulot, Lude alla se coucher. Mais quand la nuit tomba et que leur vieux voisin ne se manifesta toujours pas, Lude et la mère célibataire allèrent prévenir Flaz, le gérant de l'immeuble. Flaz est à moitié hispano, moitié samoan, une espèce de géant, 1m92, 125 kilos, quasiment pas une once de graisse. Que des vandales décamés et autres oiseaux s'approchent seulement de l'immeuble, et Flaz se jettera sur eux comme un pitbull dressé par des dealers de crack. Et n'allez pas croire qu'il reculera devant la taille et la force. Si les intrus sont armés, il leur montrera sa propre collection d'armes à feu et n'hésitera pas à leur tirer dessus, plus rapide que Billy the Kid. Mais à peine Lude eut-il fait part de ses inquiétudes concernant le vieux, que Pitbull et Billy the Kid disparurent comme par enchantement. Et soudain, Flaz ne retrouvait plus ses clés. Il annonça d'une voix étranglée qu'il allait appeler le propriétaire de l'immeuble. Au bout de 20 minutes, Lude en avait tellement ras-le-bol de l'entendre bafouiller qu'il proposa de prendre lui-même les choses en main. Flaz retrouva aussitôt les clés et, avec un grand sourire, les fourra dans la main tendue de Lude. Flaz m'apprit plus tard qu'il n'avait encore jamais vu de cadavre et qu'il était clair qu'il y aurait un cadavre. Et ça, ce n'était pas du tout pour plaire à Flaz. « On savait ce qu'on allait trouver, dit-il. On savait que ce type était mort. » Les policiers trouvèrent Zampano exactement dans la position où l'avait trouvé Lude, à plat ventre, par terre. Les ambulanciers annoncèrent qu'il n'y avait rien d'inhabituel. C'était la vie, 80 balais et des poussières, puis l'inévitable crac-boum, le système tombe en panne, les lumières s'éteignent, et voilà, c'est fini. Un autre cadavre étalé au milieu de toutes sortes d'affaires, qui n'ont pas grand sens, hormis pour celui qui ne peut plus les emporter avec lui. Tout ça prit un certain temps, avec les flics qui allaient et venaient, les toubibs qui s'occupaient du corps et s'assuraient pour commencer que le vieux était vraiment mort, avec les voisins et finalement même Flaz qui vint rejeter un œil pour savoir ce qui se passait ou simplement se repaître d'un spectacle qui un jour peut-être les concernerait de près. Quand ce fut enfin fini, il était très tard. Lude se retrouva seul dans l'appartement. Le cadavre avait été embarqué. Les officiels étaient partis. Idem pour Flaz, les voisins et autres fouineurs. Plus un chat. 80 balais et tout seul dans ce taudis, m'avait dit Lude plus tard. J'ai pas envie de finir comme ça. Pas de femme, pas d'enfant, personne. Que dalle, pas même un putain d'ami. Le lendemain, le propriétaire afficha un avis de cession et une semaine plus tard, après avoir déclaré que les effets retrouvés dans l'appartement se montaient à moins de $300, il téléphona à une entreprise caritative pour qu'elle vienne tout embarquer. C'était le soir où Lude fit son horrible découverte, juste avant que les types de la Croix-Rouge, ou je ne sais qui, déboulent avec leurs gants et leurs diables. Je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus. Alors on se retrouve bientôt, le 12 juillet, à la même heure.